Alors ce matin, pour vous, c'est encore la double peine, puisque j'apporte le message après la liturgie. Mais l'avantage quand même, c'est de pouvoir continuer à cheminer ensemble sur la thématique esquissée jusque-là, et qui poursuit en quelque sorte le culte de dimanche dernier et la prédication qui nous a été apportée par notre pasteur Clémence, qui est aujourd'hui à Bordeaux, et notamment une phrase qui m'a interpellée dimanche passé, et peut-être en est-il de même pour vous. Nous sommes sauvés de quelque chose pour être appelés à autre chose. Et je vous propose donc ce matin de nous intéresser à la deuxième partie de cette phrase et de nous inspirer d'un exemple biblique. Alors il y en a beaucoup, mais j'ai choisi le prophète Jérémie et le récit de son appel au chapitre 1, versets 4 à 12. Et je vais donc faire la lecture maintenant du chapitre 1 du livre de Jérémie, versets 4 à 12. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie ? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Amen. C'est ainsi que commence le livre de Jérémie, après une brève présentation du prophète, de Jérémie lui-même. Le livre tout entier commence par ce verset. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Comme si c'était le démarrage de tout. Ce qui n'est pas sans rappeler le début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1. Qui nous dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors cette expression, la parole de l'Éternel m'a été adressée, est répétée à maintes reprises dans l'Écriture, telle qu'elle ou à peu près. Et d'ailleurs, on la retrouve trois fois dans ce chapitre 1 du livre de Jérémie. Au verset 4, au verset 11 et au verset 13 que je n'ai pas lu. Ici, c'est le terme hébreu « dabar » qui est utilisé pour traduire la parole dans l'expression « la parole de l'Éternel ». Et c'est aussi ce terme qui est utilisé dans le livre du Deutéronome au chapitre 9, verset 10, pour désigner les paroles de l'Éternel contenues sur les tables de la loi. Parole de Dieu à son peuple. Parole de Dieu pour son peuple. Ce terme est aussi utilisé au psaume 119, qui parle de la parole de Dieu comme étant le guide pour une vie juste. Et dans les livres prophétiques, l'expression « la parole de Dieu » se réfère à la révélation de Dieu qui est faite à celui auquel il s'adresse. Ainsi, au-delà d'être une déclaration orale, écrite, La parole de Dieu est avant tout une révélation, quelle que soit sa forme, révélation qui nous est adressée, partagée. Et la comparaison avec l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, prend donc ici tout son sens. Alors cette révélation, elle survient en premier, avant même la naissance de Jérémie et même encore sa conception. Avant même qu'il puisse le comprendre, Dieu se révèle à Jérémie. La relation et la communication que Dieu veut établir avec nous est avant tout son initiative. Et sa parole, sa révélation existe, que nous la comprenions ou pas. Elle est. C'est un peu comme si je parlais à ce micro et que l'un ou l'une d'entre vous n'entende pas ou ne comprenne pas ce que je dis. J'espère que ce n'est pas le cas, mais le fait est que j'ai bien parlé et que la phrase que j'ai prononcée existe et qu'elle produit ses effets. Ici, Dieu prend soin d'expliquer ce que cette révélation à travers sa parole veut dire. Il ne s'agit pas seulement d'une apparition ou d'une déclaration, puisque Dieu dit à Jérémie, « Je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète. » Voilà ce que dit l'Éternel à Jérémie. Et ça rappelle un peu Samson, dont je vous avais parlé la dernière fois, qui lui aussi était connu et consacré par Dieu avant même sa naissance. Et on pourrait aussi l'appliquer à d'autres. C'était aussi quelque part le cas pour Abraham, Moïse, Samuel, Ésaïe, Paul et même Jésus. Oui. C'est ainsi que se traduit l'appel de Dieu, qui signifie qu'il nous connaît, qu'il nous a consacrés et qu'il nous a désignés pour être et faire ce que nous sommes. N'oubliez pas que tout ceci se passe avant notre naissance et le passé composé et le plus que parfait des verbes utilisés montrent qu'il s'agit d'un fait accompli et non pas d'une hypothèse, d'un souhait ou d'une projection. C'est fait. Alors, nous avons déjà parlé de ce que connaître signifie dans le langage biblique, à savoir aller à la rencontre, rencontrer. Nous avons aussi plusieurs fois expliqué ce que consacrer signifie. Nos pasteurs, Samuel et Clémence, ont beaucoup insisté là-dessus. Mais je le redis, cela signifie être mis à part. Et ceci correspond tout à fait à la théologie de l'alliance qui est la nôtre. Une alliance que Dieu fait avec son peuple qu'il rencontre, qu'il met à part et qu'il associe à son projet divin car il veut l'utiliser pour la réalisation de ce projet. Et j'aimerais donc m'intéresser maintenant un peu plus au terme « désigner » ou « établir » selon les traductions. Ici, on voit que Dieu assigne un rôle à Jérémie dans son projet divin. Et plus loin, il dira même qu'il lui confie une responsabilité au verset 10. L'ordre est important. Dieu nous demande d'abord d'être ce qu'il a prévu que nous soyons, puis il nous confie une responsabilité. D'abord être, puis faire. L'un après l'autre, mais l'un avec l'autre. Il est intéressant de voir la réaction de Jérémie face à ce programme, au verset 6. « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Donc on voit tout de suite que c'est une attitude de résistance. Mais est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes tentés de réagir ainsi ? Lorsque nous sommes appelés à quelque chose, que du négatif. Je ne suis pas, je ne peux pas, et j'ajoute moi-même à la parole, je n'ai pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes, car je n'en ai pas les capacités. Je ne suis pas celui ou celle qu'il te faut. Sous-entendu, laisse le job à quelqu'un d'autre, il est mieux placé. Je n'ai pas le temps, etc. Il est aussi intéressant de voir la réaction de Dieu qui ne réfute pas les arguments de Jérémie, qui peuvent être légitimes. En effet, il est plutôt gênant pour un messager ou un porte-parole de Dieu, c'est le sens du mot prophète, de ne pas savoir parler. Et il faut aussi être conscient de sa jeunesse et donc objectivement de son manque de maturité, d'expérience. C'est tout à fait normal quand on est jeune pour assumer des tâches importantes ou de hautes responsabilités. Alors, petite note à ce sujet, en hébreu, c'est le terme « nahar » qui est utilisé et que l'on traduit ici par « jeune ». Et ce mot, on peut le traduire, on le trouve comme ça dans la Bible, par « enfant », « jeune homme », mais aussi « serviteur ». Comme c'est le cas dans le livre de Job, au chapitre 1, lorsqu'il est écrit que les serviteurs de Job sont passés par l'épée de la part des Sabéens. Donc c'est intéressant de voir que ce mot traduit à la fois l'enfant, le jeune homme et le serviteur. Alors concernant Jérémie, puisqu'on parle de sa jeunesse, beaucoup de théologiens ont fait des recherches pour essayer de savoir quel âge exactement avait Jérémie lors de son appel. Et en fait, aucun n'est d'accord, enfin ils ne sont pas d'accord entre eux. Et puisque nous avons plusieurs hypothèses, certains disent que Jérémie avait 8 ans, d'autres 15, 20 ou 30. Mais finalement, peu importe, car la notion de jeunesse est somme toute relative. On est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Et je me souviens quand j'étais en République démocratique du Congo, quand un de mes collègues avait dit tout naïvement, tout franchement, quoi, que les femmes de 40 ans étaient amorties, j'avais pris un petit coup dans les dents et on avait continué la discussion. Mais voilà, juste pour dire que tout est relatif, nous sommes toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Éternel, non pas que les femmes de 40 ans sont amorties, mais en gros, il dit à Jérémie, ce n'est pas ça le problème, ta jeunesse n'est pas le problème. En tout cas, ce n'est pas une raison suffisante et valable pour être empêché de répondre à l'appel de Dieu. Ne prétends pas, dit l'Éternel à Jérémie. Si le sentiment de notre propre faiblesse et insuffisance devrait nous faire avancer humblement dans notre travail, il ne devrait cependant pas nous faire reculer lorsque Dieu nous appelle. Ici, Dieu n'accepte pas la réticence de Jérémie car il veut lui montrer que les deux seules conditions nécessaires à l'efficacité de la réponse à son appel sont autres. Il s'agit de l'obéissance à Dieu et il s'agit de la puissance de Dieu. Et cela n'a rien à voir avec notre statut, notre position, nos capacités personnelles, même si ce sont des atouts, ce ne sont pas des conditions. La nécessité de l'obéissance est illustrée ici au verset 7, qui présente à Jérémie comme une marche à suivre. Tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc là, c'est 1, 2, tout est clair. Oui, Dieu a tout prévu. Il a même choisi ceux vers qui il enverra Jérémie, et il a même déjà mis dans la bouche du prophète les paroles à prononcer. Paroles de Dieu qui est puissance par elle-même. Le serviteur de l'Éternel accomplit convenablement sa mission quand il se soumet entièrement à celui qui l'envoie, indépendamment de la réponse de ceux auxquels il s'adresse. Et c'est ce qui fait que, malgré les difficultés vécues par Jérémie, par exemple, on le voit plus tard dans le livre, on ne peut pas considérer que sa vie et même son ministère étaient enviables. Néanmoins, on peut considérer sa mission comme un succès. Et cela devrait nous encourager. Et c'est pourquoi l'Éternel se veut aussi rassurant. S'il est Seigneur et que nous sommes ses serviteurs, il nous montre qu'il n'est ni un tyran, ni un roi qui envoie ses sujets au casse-pipe, comme nous en avons malheureusement des exemples aujourd'hui. N'aie pas peur, dit-il à Jérémie, pour le rassurer, comme un père dit à son enfant qui ferait une chose pour la première fois ou qui s'engagerait dans une entreprise difficile. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te lancer sur ton vélo sans les petits trous pour la première fois. N'aie pas peur de te jeter dans le grand bassin de la piscine sans tes bouchons pour la première fois. N'aie pas peur. En effet, bien souvent, la peur nous empêche d'avancer vers cette autre chose auquel Dieu nous appelle. Et là encore, dans le contexte de Jérémie, on le comprend fort bien, puisqu'il intervient dans une période troublée, difficile, qui nous ramène au dernier roi de Juda, avant la captivité du peuple à Babylone, du peuple d'Israël à Babylone. L'apparition d'un prophète est toujours l'indice du mauvais état du peuple d'Israël, ce qui rend sa tâche d'autant plus difficile, on le sait, mais c'est aussi une preuve de la grâce de Dieu. Et là encore, comme un père, Dieu se montre avec Jérémie pédagogue et respectueux, comme il l'est aussi avec nous, en lui expliquant pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur. La première raison, c'est la présence de Dieu auprès de Jérémie, comme il est aussi présent auprès de nous. Et cette affirmation est d'autant plus forte que nous venons de célébrer l'ascension de Jésus-Christ jeudi passé. Et la deuxième raison, c'est qu'il nous équipe pour la mission qu'il nous confie. Il nous donne les moyens concrets, pratiques, pour accomplir cette mission. Ainsi, il touche la bouche de Jérémie qu'il remplit de ses paroles, tout comme il l'a fait pour d'autres personnages bibliques. Je pense à Aaron, à Ésaïe, à Ézéchiel. L'Éternel donne à Jérémie d'avance l'autorité et le courage nécessaire pour remplir sa tâche. Alors l'autre jour, en pastoral, nous nous sommes interrogés de savoir si le fait de vivre une chose nous donnait l'autorité pour en parler. Alors effectivement, si le fait de vivre une chose nous donne une expérience supplémentaire par rapport à celui qui ne l'aurait pas vécu, ce n'est pas cette expérience qui nous donne l'autorité pour en parler. Car ce texte nous montre bien que l'autorité nous est donnée par Dieu pour accomplir ce à quoi il nous appelle. Dieu nous donne les moyens, l'autorité, le courage, le savoir-faire pour accomplir ce à quoi il nous appelle. C'est lui qui nous les donne, qui nous donne tout ça. Ne croyons pas autre chose, sinon gare à l'orgueil. Et aussi peut-être gare à l'échec parfois. Et cela me rappelle un verset de la Bible que j'aime beaucoup, qui va dans ce même sens, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 14, que je lis. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, donc on retrouve l'obéissance, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation. Ce qui nous est souvent difficile. Alors l'Éternel accompagne celui qui l'appelle et il précise à Jérémie qu'il l'accompagne pour le délivrer, pour le protéger, au verset 8. Cela ne signifie donc pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, d'obstacles, voire de véritables tribulations, et le ministère et la vie de Jérémie le montrent bien. Mais je le rappelle, l'Éternel n'est pas un roi tyran qui nous envoie au casse-pipe. Il nous équipe et nous accompagne pour nous protéger aussi dans ce qu'il nous demande. Il ne nous envoie pas pour exécuter simplement une tâche, même en son nom. Mais comme Jérémie, il nous confie une responsabilité. Et ça, c'est complètement différent. Si vous étiez chef d'entreprise, est-ce que vous confieriez une responsabilité à quelqu'un que vous ne jugez pas digne de l'accomplir, ou bien en qui vous n'auriez pas confiance? De l'autre côté, si dans votre travail, votre chef vous confie une responsabilité, que ressentez-vous? Un peu d'appréhension, certainement, mais aussi vous vous sentez quelque part honoré, encouragé, fortifié, content même d'avoir été choisi au sein de votre équipe et du fait aussi que quelqu'un vous juge digne, capable d'assumer cette responsabilité. Et d'ailleurs, dans le monde du travail, on les refuse rarement, ces responsabilités qu'on nous confie. Alors pourquoi n'en est-il pas de même lorsque c'est Dieu qui nous confie une responsabilité ? À noter que la responsabilité va de pair avec la redevabilité, c'est-à-dire que celui qui m'a confié une responsabilité va venir me demander des comptes, de rendre compte. Mais loin de vouloir nous écraser, agir comme cela, c'est considérer l'autre comme un adulte. On parlait tout à l'heure de la jeunesse ou de l'enfant, mais là, quelque part, en nous confiant cette responsabilité, Dieu nous considère comme un adulte, et ce n'est pas une question d'âge, mais plutôt dans le fait qu'il nous considère capables d'assumer cette responsabilité, d'être le co-gérant que nous sommes de la création de Dieu. Alors voyant bien que Jérémie a quelques réticences, Dieu confirme cet appel en ne se limitant pas à la parole, mais il fait intervenir un autre sens, la vue, puisqu'il donne à Jérémie une vision. Et ceci montre bien que Dieu a mille et une façons de communiquer avec nous. Il fait voir à Jérémie une branche d'amandier. Alors le rapport ne saute peut-être pas aux yeux tout de suite, mais pourtant cette vision a une valeur symbolique. Le mot hébreu pour amandier a la même racine que le verbe veiller, que le Seigneur utilise d'ailleurs au verset 12. Et à l'origine, ce mot signifie éveiller. Et il a été transposé pour traduire amandier, sans doute parce que c'est le premier arbre à fleurir au printemps, celui qui s'éveille en premier du long hiver. Il symbolise ici la vigilance divine qui ne s'interrompt jamais. Ce que confirme l'Éternel d'une manière plus claire encore au verset 12, lorsqu'il explique cette vision comme une manifestation de la providence divine en disant « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Alors j'ai commencé ce message avec la phrase prononcée la semaine dernière par notre pasteur Clémence. Nous sommes sauvés de quelque chose pour être appelés à autre chose. Alors oui, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et que nous avons répondu à cet appel, alors oui, nous sommes sauvés de la mort et de la perdition. Et nous sommes ainsi appelés à vivre éternellement dans le royaume de Dieu et à connaître les réalités célestes. Mais ce sera pour plus tard. En répondant à l'appel de Dieu, nous sommes aussi appelés à autre chose ici et maintenant. C'est le déjà du royaume de Dieu qui a commencé avec la venue du Christ, sa mort, sa résurrection, et ce, même si ce royaume n'est pas encore pleinement établi. Cet appel correspond au « Viens, suis-moi » prononcé par Jésus à ses disciples. « Viens à moi de tout ton cœur et viens à ma suite pour toute ta vie. » Alors, je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas tous des prophètes comme Jérémie, mais nous avons tous été appelés comme Jérémie. L'appel est personnel et il n'incombe pas forcément à tous d'arracher, de démolir, de détruire, de construire, de planter, mais en écoutant attentivement l'appel personnel qui est adressé à chacune et à chacun, il nous est sûrement demandé quelque chose. De vivre, de penser, de ressentir, de parler, de réfléchir, d'agir, de travailler, de nous comporter, de donner, d'aider, d'aimer, etc. autrement. Il nous est demandé d'être et de faire autrement. Par Dieu, vers Dieu et pour Dieu, comme aimaient à le dire les premiers réformateurs. L'appel parle assurément à chacun de façon individuelle, personnelle, intime, mais il est en même temps l'appel de Dieu à une humanité nouvelle, à un mode de vie nouveau, et au rôle qui est le nôtre pour qu'advienne le nouveau ciel et la nouvelle terre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je prie que la vie de Jérémie puisse nous instruire sur notre marche avec Dieu et comment nous cheminons avec lui sans cesser de nous émerveiller de la présence sensible et l'aide efficace de ce Dieu à nos côtés et de participer ici et dès maintenant à l'accomplissement de sa parole et ne pas se contenter de laisser le train passer. Le prophète est à la fois messager, homme de Dieu, sentinelle, serviteur. Si nous ne sommes pas tous des prophètes, je crois qu'il y a bien un de ces costumes qui devrait nous aller. Ce serait dommage de se priver de ces bénédictions que nous pouvons vivre ici et dès maintenant en répondant présent. Sinon, ce serait un peu comme se contenter de regarder un ou deux épisodes d'une trilogie au cinéma. On aurait l'impression qu'il manque quelque chose. Je voudrais donc terminer ce message avec ces quelques mots de Paul aux Romains que nous trouvons dans son épître du même nom, au chapitre 8, les versets 28 à 30. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformément à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Et c'est ce qui nous attend. Amen.